Bonsoir, rencontre avec la charmante Licam pour la sortie du deuxième tome de Chronique des Striges chez Griffedon qui vient de paraître en ce mémorable mois de mars 2014. Bonsoir Licam.
Bonsoir.
Alors, tout d'abord, même si cela paraît quelque peu superfétatoire, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours d'écrivain et justement de ce cycle des Striges?
Alors j'écris depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par écrire des nouvelles, principalement du fantastique et de la science-fiction. En 2002, j'ai écrit mon premier roman. Et il n'a pas été édité tout de suite. Je l'ai fait relire à Heyerdahl, qui m'a dit « c'est bien, mais il faut tout refaire
». Ça fait plaisir.
Et ce premier roman, c'était « Les Machetous », donc « Chronique des Striges » numéro 1. Donc j'ai retravaillé pendant 6 mois et il est sorti qu'en 2009, le temps du retravail et puis le temps de trouver le courage de l'envoyer à un éditeur. Parce que c'est pas toujours évident de lâcher le bébé et de le laisser vivre par lui-même. Ensuite je suis également directrice littéraire d'une maison d'édition, Organique Édition, qui fait des livres d'art, on fait des livres qui mélangent l'art et la fiction.
D'accord, tu peux nous en dire plus ?
En fait, la collection s'appelle Petite Bulle d'Univers et on fait se réunir un auteur, bien souvent un auteur de fantastique et de science-fiction, puisque c'est ceux qu'on connaît, et un plasticien, c'est-à-dire soit un sculpteur, un peintre, un photographe, mais contemporain. On commence par le travail du plasticien, c'est-à-dire il fait des sculptures, ses peintures, et une fois qu'il a suffisamment de visuels, à peu près une vingaine, on envoie ça à un auteur qui lui doit écrire une fiction.
À partir de l'œuvre.
À partir de l'œuvre, oui. Une nouvelle, on va dire, 50 000 caractères à peu près. Et ça, ça fait une dizaine d'années aussi qu'on a ces maisons d'édition.
Alors, revenons sur ce qui nous amène, à savoir ces Chroniques des Striges. Donc, on peut... J'aime pas les étiquettes, mais quelque part, c'est à la fois un roman initiatique, vu qu'on y suit les aventures d'un jeune vampire projeté dans une école londonienne, tout en étant surveillé à la fois par le Vatican et par deux prêtres vampires. Et une forme d'uchronie, vous constitue dans un monde qui ressemble extrêmement au nôtre, mais avec quelques petites différences qui sont annoncées dans le tome 1 et j'imagine beaucoup plus développées dans le tome 2.
Bah, disons que la différence principale, c'est que comme dans la mesure où les vampires existent dans cette fiction, l'Église et le Vatican ont conservé un pouvoir important. Et donc ils sont un petit peu en retard, on va dire que ça se passe de nos jours, mais il y a des choses qui sont un peu surprenantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, ils ont encore des façons de s'exprimer un peu précieuses, les mœurs sont un peu plus bridées que les nôtres, mais c'est la force du Vatican sur les esprits. À cause des vampires, le Vatican est important dans l'esprit de tous les gens, quoi.
Oui, techniquement, le Vatican n'est pas resté une petite cité paumée au milieu de nulle part, mais a réussi à poser sa chape de plomb sur la totalité d'un continent, l'Europe.
Mais en fait, il remplace un peu l'Assemblée européenne, c'est-à-dire qu'il chapeaute toute l'Europe. Il y a des gouvernements, mais au-dessus, c'est le Vatican.
Et j'imagine qu'il n'y a jamais eu de Jean XXIII et de Vatican II.
Non.
Revenons sur les personnages, donc j'ai parlé du personnage principal, est-ce que tu peux nous présenter justement la galerie de personnages que tu t'es amusé à créer, à faire vivre, et j'imagine à un moment à faire mourir également?
Alors en fait, donc c'est des striges, comme j'étais passionnée de jeux de rôle quand j'étais plus jeune, je me suis amusée...
Mais tu l'es toujours?
Oui, merci. Je me suis amusée en fait à créer des personnages qui aient des caractéristiques un peu comme dans les jeux de rôle. C'est-à-dire qu'il y a différentes castes de striges, donc notamment le héros, les Machetous, est un Voivoï Strigoï, c'est-à-dire c'est un strige avec plus de pouvoir que les autres, une sorte de maître. Il est entouré d'un Nosferat, prêtre, qui lui est une référence au Nosferatu, c'est-à-dire un vampire un peu moins charmeur, un peu moins élégant, mais avec une force physique et une...
Ce que j'allais dire, la force brute.
Voilà, une résistance physique importante. Il y a un Nécourat. Donc là, c'est des vampires, là où, par contre, très charmeurs, plutôt manipulateurs, dans la personnalité.
Mais tout le côté sensuel qu'on peut retrouver dans les œuvres vampiriques.
C'est typique. Et après, il y a des strigoïs et des demi-strigoïs, ce sont des vampires qui n'ont pas de pouvoir particulier. Donc il y a ces castes de striges, et ensuite, en fonction de leur vie, ils peuvent dégénérer ou pas. C'est-à-dire qu'on a des moroïs, c'est-à-dire des striges qui sont particulièrement agressifs, particulièrement violents. Et dans la suite de Les Machetous, Instant Gerat, on a une nouvelle caste de vampires qu'on n'avait pas encore vue.
D'accord. Alors, dans mes souvenirs, tu joues énormément sur le principe, bah, déjà en situant ton action au niveau de la Roumanie, donc en t'amusant énormément avec la Valachie, avec le mythe de Vlad Dracul et ainsi de suite. Et effectivement, tout au long de l'histoire, on s'aperçoit que les vampires ont à la fois intégré cette histoire et l'ont quelque peu modifiée par leur existence même. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là ?
Bah, disons que pour écrire Les Machetous, je me suis beaucoup documentée. Et effectivement, il y avait ce Vlad Tepes, qui est en fait la source du mythe créé par Bram Stoker. Et je me suis amusée en fait à partir de l'Ordre du Dragon, dont Vlad Tepes faisait partie. Et je me suis dit que cet Ordre du Dragon, en fait, il gouvernait la Roumanie.
Un ordre de chevaliers vampires, en quelque sorte.
Chevaliers vampires, voilà. Et sauf que, bon, il y a eu des soucis. En fait, les vampires dans l'univers de Les Machetous sont circonscrits sur un territoire qui est la zone de confinement, qui correspond à la Roumanie et une partie de la Hongrie.
Une espèce d'énorme camp d'internement.
Voilà, ghetto. Alors, c'est pas un camp d'internement parce qu'ils vivent pas trop mal à l'intérieur, mais ils n'ont pas le droit de sortir. Ceux qui sortent, par exemple, Les Machetous, qui lui vit à Londres, c'est vraiment parce qu'ils sont en danger. Et donc, on les protège à l'extérieur de la zone de confinement. On les fait sortir parce qu'ils sont en danger. Mais cet ordre du dragon, en fait, je me suis inspirée, comme ça reste très religieux, vu qu'on est dans un monde qui est encore très religieux. Ces chevaliers défendent à la fois, tout en étant des vampires, défendent des idéaux qui sont très religieux. Ce qui est paradoxal.
Tu t'inspires un peu, effectivement, du personnage de Vlad Tepes, qui a retourné, justement, contre les Turcs, leur propre méthode de combat, c'est-à-dire la terreur, l'exécution en masse, les massacres, et ainsi de suite, et qui a inspiré, ô combien paradoxalement, bah, effectivement, le vampire charmeur qu'on connaît à travers Bela Lugosi, ou voire même les Stat le vampire d'Anne Rice, et ainsi de suite.
Alors moi, mes vampires, ils sont... Alors, certains sont charmeurs, comme le héros Les Machetous ou comme Aratar, mais la majorité ne le sont pas quand même. La majorité ont vraiment un côté encore assez bestial.
Oui, un côté très ascète, voilà. Dans mes souvenirs.
Oui, très ascète, très bestial. Et,
des moines guerriers.
C'est des moines guerriers, oui. Ouais.
Une espèce de... un ordre des Templiers non encore éradiqué.
Voilà, et pas très romantique, parce que je me suis aussi... Il y a effectivement le Bram Stoker, mais je me suis quand même pas mal inspirée des mythes de la Striga. C'est un mythe romain, cette fois-ci italien, où là c'est carrément des monstres, quoi. Enfin, donc,
t'as mélangé un peu les sources, voilà. Effectivement.
Et du coup, ça donne un peuple assez hétéroclite. Certains sont précieux, intellectuels, et d'autres pas du tout.
Alors, tout le cadre de ton premier roman se situait justement dans une école. Bon, on va éviter les clins d'œil foireux à Harry Potter et compagnie, t'es ni la première ni la dernière. Non, mais c'est là où c'est rageant, quand on a toujours un bouquin qui marque, ensuite tout le monde a dit « Ah oui, mais ça me rappelle machin !»
On y a droit.
Mais il y avait effectivement tout ce cadre finalement au combien lourd, limite quelque part effectivement entre l'ordre monocal, la prison, l'endroit bourré de connaissances, et en même temps tu t'es amusé à y mettre, et de fort belle manière, toute une histoire d'amour, vu que le personnage va rencontrer quelqu'un, va en tomber amoureux, et pour une fois, bon, on va être un peu cru, c'était pas cucu.
Merci. Bah, c'était tout l'enjeu, en fait, comme c'est un adolescent et qu'il a ses pulsions, étant un vampire, il a des pulsions quand même assez sanguinaires. Il y avait un enjeu particulier dans la relation amoureuse. Parce que est-ce qu'il peut aimer un être humain sans
la bouffer,
sans la tuer? Et c'est toute la crainte qu'il a, lui, et que les humains n'ont pas, parce qu'ils sont assez naïfs. Enfin, ils sont attirés par lui, parce qu'il a une espèce d'aura de charme très puissant. Mais les humains n'ont pas peur de lui, mais lui par contre il a très peur de ce qu'il pourrait faire.
Est-ce que tu développes encore un peu plus cet aspect dans le tome 2?
Alors dans le tome 2, en fait, il se passe principalement en Roumanie, parce que comme je vais pas raconter la fin du tome 1, mais disons qu'il y a une rébellion qui a lieu en zone de confinement. Les striges se révoltent Et donc...
C'est des Ukrainiens.
Voilà. Parce qu'on a osé toucher un peu à leur futur roi. Et donc, en fait, ils se révoltent et le Vatican décide de présenter les Mashtous à son peuple, qui ne le connaît pas, qui n'ont même jamais entendu parler de lui, qui ne savaient pas qu'il y avait un voïvode qui existait, et pour les calmer. Et ça va être compliqué, je ne vais pas tout raconter, mais disons
oui,
que...
Oui, j'imagine qu'il y a le côté, on vous présente une marionnette et vous calmez voilà. Tous, et que ça ne va absolument pas se passer comme c'était prévu.
Voilà, surtout qu'il y a toute une faction d'estriges qui ne répondent plus au conseil de l'Ordre du Dragon, qui répondent à un autre organe politique, qui est le Sanjedrak, et qui, eux, refusent l'autorité du Vatican.
D'accord, c'est marrant, mais plus on en parle, plus ça me fait penser à la fois au Tibet, à la Chine, au peuple amérindien, à l'Amérique, comme quoi finalement on reproduit de manière inconsciente des histoires qui sont très très bien dans notre réalité.
Oui, bah, de toute façon, on a envie, enfin, même dans le fantastique ou même dans la science-fiction, on a envie de parler de ce qu'on vit quelque part. On prend des chemins un peu détournés, mais ce qui nous prend en tripe, ça passe dans l'écrit. Mais on ne s'en rend pas compte en plus, on s'en rend compte bien souvent en relisant. Là, on se dit, oh là, j'ai voulu parler de ça, là, là. Mais effectivement. Et puis, l'enjeu aussi, c'est dans Insanjerat, c'est la question pour les Mashtous, lui qui, en fait, a toute sa vie à Londres, et qui est finalement un Anglais, et qui a été élevé parmi les humains, va se rendre compte que son peuple. Les mœurs sont assez particulières, c'est des mœurs assez choquantes pour lui, et il sait qu'il est amené à gouverner ce peuple qu'il ne connaît pas.
C'est un peu comme ces otages qu'on envoyait à Rome, qui étaient éduqués selon les principes de l'Empire romain et qui avaient l'impression de revenir chez les barbares quand ils rentraient chez eux.
Bah, c'est tout à fait la vision qu'il a, et on va se rendre compte qu'en fait la question c'est est-ce qu'il se trompe, est-ce qu'il va être capable de tenir son rôle, est-ce qu'il va le vouloir, est-ce qu'il va pas prendre la fuite, nanana. Après, effectivement, il y a peut-être, c'est un peu moins une histoire d'amour qu'une histoire...
De pouvoir.
De pouvoir, cette fois-ci, ouais.
Après la conquête de l'amour, la conquête du pouvoir. Le changement, c'est maintenant.
Voilà. J'espère que ça ne va pas se passer comme 2000 pour lui, un an après ou un an après.
Bon, tant qu'il n'y aura pas d'histoire de scooter et de livraison de pizza, ouais, tout ira bien.
Ah, ok.
Alors, avant de conclure, je propose qu'on revienne sur le processus d'écriture. Comme tu l'as dit, ton premier roman est sorti en 2009. Tu as mis du temps à l'écrire, tu as mis du temps à le retravailler. Merci à Heyerdahl, mais bon, c'est toujours utile. Alors, même si l'action du roman se situe 6 mois après la fin du premier tome, 2009-2014, le dyscalculique que je suis va te demander de faire le calcul, mais on doit être à peu près à 5 ans. C'est dur ?
Bah,
question bête. Hein.
J'écris pas très vite. Je ne fais pas qu'écrire. Et on va dire que je voulais. Enfin, une fois que j'ai fini les Mashtous, j'avais l'idée du deuxième et du troisième tome, parce qu'il y en aura encore un troisième.
Ah, scoop, nous avons une trilogie.
Mais j'avais quand même un peu peur. Je voulais que ça reparte, parce que ça finit quand même sur les chapeaux de roue, les Mashtous. Je voulais que ça reparte tout de suite au même rythme, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé le début. Beaucoup. Et il y a plusieurs intrigues qui se croisent dans celui-ci. Les Mashtous, c'était assez linéaire. Il y avait effectivement les archives qui racontaient un peu le passé du Nosferatu, enfin du père Alamedou.
Oui, avec les fiches qui faisaient très jeu de rôle au niveau. On voit l'inspiration.
Voilà, l'inspiration. Et là, par contre, il n'y a pas forcément ces archives. Par contre, il y a plusieurs intrigues qui se croisent. Et c'était pas facile. Et je voulais pas faire d'incohérence. Donc, du coup, effectivement, j'ai mis plus de 2 ans pour l'écrire. Après, là, tu vas me dire, mais ça fait que 2011.
Non, je suis dyscalculique.
Et donc, du coup, les 4 ans qui ont suivi, bah, c'est en fait les aléas tout aussi le de l'édition, le retravail, les aléas de l'édition.
La crise.
Voilà, la crise. Et Griffe d'Angle, bon, effectivement, ils ont un catalogue, ils ne sortent pas énormément de livres par an, donc voilà, ça fait que... Mais bon, en même temps, c'est un peu difficile de parler d'un roman, finalement, qu'on a écrit...
Oui, mais j'allais dire, attendre 5 ans pour avoir un bon roman, en même temps, on va pas pleurer. Hein.
Bah, ça me rassure, parce que j'avais un peu peur qu'on m'ait un peu oublié. Et qu'on se dise, tiens, elle est encore là. Non, mais effectivement, Après, j'espère que la suite...
Ça, c'est marrant. Ça me rappelle, je ne sais pas si tu l'as lu, La vérité de l'affaire Harry Kubert, qui a été écrit par un auteur suisse, Joel Dickens, qui s'amuse justement énormément avec toutes les codes du polar américain. Et en fait, son héros, c'est un écrivain qui a sorti un premier bouquin qui a cartonné. Et du coup, une maison d'édition lui a mis le grappin dessus, lui a fait signer un contrat en disant « Bon, ben voilà, il nous en faut trois et il nous les faut à telle durée. » Et automatiquement, dès le départ, comme tu dis, on n'arrête pas de seriner au personnage. Non, mais on va vous oublier. Il faut que le bouquin il sorte l'année prochaine. Le public est très velléitaire, il passe à autre chose, et ainsi de suite. Et le type s'en rend compte le jour où, après avoir vu pendant des lustres un magnifique portrait de lui en train de monter son bouquin dans le métro, remplacé par un mec dont il n'a jamais entendu parler. Et là, il se dit, il faut peut-être que je commence à écrire une page quand même.
Bon, après, il vaut mieux attendre un peu pour faire un bon livre que sortir un livre tous les ans qui soit moyen. Mais bon, voilà. Moi, j'ai essayé de faire au mieux. J'espère que ça fera plaisir.
Et pour conclure, le mot de la fin t'appartient, donc fais-toi plaisir.
Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'espère que les Machu et Insane Girat vous plairont. Et j'espère que vous ferez un beau voyage en contrée Strige. Merci.
Merci à toi et à très bientôt.
À très bientôt.
Rencontre avec Mabel Yi, qui est donc responsable éditoriale chez Griffdank à Ormag. Ça va être un péché, ça va être dur, mais il va falloir que tu nous parles de toi.
C'est-à-dire, te parler de moi. Qu'est-ce que tu veux ?
Parle-nous de ton parcours professionnel et parle-nous justement de la maison d'édition Griffdank. Du nom, passant par l'activité, comment ça se passe actuellement, parce que on le sait tous, il y a une crise, le milieu de l'ASF, et j'allais même dire le milieu littéraire en général, traverse quelques légères difficultés, des trous d'air, ou alors on peut même carrément dire que dans certains cas, on se rapproche de la disparition suspecte du MH371, et la difficulté justement de sortir des œuvres, à combien d'exemplaires, pour quel type de public, comment ça marche, etc. etc. Alors, je te demande pas de nous dresser un panorama économique du milieu, on n'est pas là pour ça. Challenge Magazine, bonjour. Mais plutôt de nous parler justement un peu Griffdank actuellement, c'est quoi ? Comment vous vivez ? Comment ça se passe au niveau de la sortie des bouquins ? Qu'est-ce qui va nous arriver d'ici peu de temps, droit dans la gueule, et qu'on sera forcément ravis ? Et autres. Fais-toi plaisir, tu peux répondre dans le désordre.
Je pense qu'on est un petit peu, on n'est pas spécialement touché par la crise dans le sens où on est petit, donc on n'a pas, on est assez stable, on a un public captif qui grossit petit à petit, les gens accrochent, reviennent vers nous, restent.
Vous nourrissez vos esclaves.
On nourrit nos esclaves à coups de livres et après ils peuvent plus, ils reviennent et donc voilà, on n'a pas été très présents pendant 2 ans parce qu'on avait d'autres projets parallèles qui ont fait qu'on a dû mettre un gros frein sur l'activité. Ce qui fait que la crise a correspondu pour nous à une baisse d'activité, donc ça, on ne l'a pas senti.
C'était... En fait, pour vous, la crise, ça a été une longue parenthèse.
Voilà, ça a été une longue parenthèse. Là, on revient sur le devant de la scène avec une Shangarate, bien dire, de l'ICAM et l'usine à nu de Yann Marchand qui avait déjà publié 3 novellas chez nous. Et on a d'autres titres qui arrivent bientôt, dont l'anthologie zombie, la novella de Victor Dixen qui est coup de cœur des Imaginales. Enfin, il est coup de cœur des Imaginales pour son roman Animal, et on sort en novella l'après-quel pour les Imaginales qui est Tambour dans la nuit.
Alors, est-ce que tu peux m'en parler parce qu'à titre professionnel, je travaille pour le musée de l'armée, et à titre personnel justement la nouvelle donne extrêmement envie quand vous en parlez sur votre site. Pour resituer par rapport à notre lectorat, l'histoire se situe pendant la campagne de Russie en 1812 et a l'air d'avoir un bon fantastique à, je sais pas pourquoi, mais inconsciemment j'ai pensé au Orla de Maupassant. Un fantastique un peu ténu, lourd, qui a l'air d'être présent en périphérie et de grignoter, pour ainsi dire, petit à petit, insidieusement, la réalité.
Il est là un peu comme un cauchemar.
Finalement.
C'est comme ça que je verrais. C'est le point de vue d'un troufion qui est là, qui fait la musique, qui a un tambour, qui est là pour l'armée, qui, on va suivre son parcours sur cette campagne, on va voir avec lui la débâcle de Russie. C'est un livre qui est magnifiquement écrit, Victor Duxen a une plume superbe, et c'est Stéphanie Nico qui nous l'a présenté en disant voilà, ça serait chouette qu'il existe. Il avait déjà une vie en numérique, et ça serait chouette qu'il ait une vie papier, et elle nous l'a fait lire, on a dit oui, on le veut. On en a pas, donc on a été présenté à Victor via mail, et le courant est bien passé, donc cette novella sort pour les Imaginales, avec un partenariat avec Bleuette France, qui est une association d'anciens combattants.
Je connais.
Donc à qui Victor a choisi de reverser les droits de la novella.
Beau geste.
Donc voilà, c'est vraiment une très très belle novella qui va être tirée à 500 exemplaires. Et donc précipitez-vous dessus. Parce que,
j'allais dire, la rareté engendre la demande.
Il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais donc voilà, vraiment une novella à ne pas louper. Dans le même temps, les Imaginales vont être un gros, gros focus, puisqu'il va y avoir aussi la suite de Votre mort nous appartient. La novella de science-fiction d'Antoine Lancoux, qui se passe dans un monde qui est régi par la domotique. Et donc on va au-delà dans cette novella. Non, là ça devient un roman, pardon. Sur le deuxième, c'est un roman. On va un peu plus loin dans le monde de...
Vous développez l'univers.
Il développe l'univers qui est développé dans des nouvelles qui sont aussi dans des anthologies d'ailleurs. On retrouve une de ces nouvelles dans Ouvre-toi.
Vous développez le multivers.
Oui, voilà, c'est un multivers qui est plein d'humour et de cynisme. De l'humour noir vraiment, vraiment très sympa, et voilà. Et donc Zombie, qui était un appel à texte, qui a reçu 180 nouvelles, ce qui pour nous est quand même
donc, ah oui, pour une anthologie, oui.
Oui, voilà, on a reçu 180 nouvelles, on en a sélectionné 17, ça a été dur, ça a été très très
et
dur.
Vous avez envoyé tout le reste à l'anthologie des nouvelles refusées chez Longshu Publishing.
Il y en a sûrement qui vont y aller, on sait pas trop. Là on vient juste de finir, la couverture est de Zariel. Tu peux la voir là en avant-première. Et voilà pour les nouveautés. On a en septembre, il y a la suite des Poubelles qui va venir. Un troisième opus des Poubelles qui arrivera. On prépare pour l'année prochaine une anthologie sur la différence qu'on aurait dû sortir cette année. Mais comme il y avait une grosse attente de Zombie, on n'avait pas envie que Zombie fasse de l'ombre à Différence, donc on a reporté un petit peu, une anthologie sur laquelle il y aura un partenariat aussi avec des associations, partenariat sur lequel on travaille. Donc pour l'instant, on ne peut pas trop en dire plus tant que ce n'est pas décidé. Donc voilà.
Eh bien, sans vouloir paraître faire mon patriage, tout cela me paraît très bel et bon. Toutes mes félicitations en tout cas pour tout ce qui sort. Bravo, entre guillemets, pour votre retour réussi, même si vous avez toujours été un peu là, sur le côté. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures, j'imagine. Alors je te laisse le mot de la fin. Fais-toi plaisir.
J'en reste sans voix.
Magnifique. Merci à toi.
Merci à toi.